95.10 FM et internet www.radio-voixduberne.info, nous allons retrouver notre émission Astronomie à la découverte du ciel présentée par Alain. La découverte du ciel, une émission proposée et présentée par Alain sur la Voix du Béarn 95.10.
À la découverte du ciel, à la découverte de l'univers, les amis, bonjour, c'est Alain. Alors aujourd'hui, notre émission d'astronomie va être consacrée aux constellations du zodiaque. C'est la suite de l'émission précédente. Mais on commence par l'actualité. L'actualité, les amis, le 5 avril, la comète 41P Tuttle-Giacobini va passer au plus près de la Terre. Elle va être à 22 millions de kilomètres. Pour la voir, il faut des jumelles ou mieux un télescope. Et il faut chercher pas loin de l'étoile polaire dans la constellation de la Petite Ourse. Le 13 avril, elle va passer au plus près du Soleil. C'est ce qu'on appelle le périhélie. Puis elle va repartir pour faire un tour et reviendra dans 5 ans et demi. Notons aussi la possibilité de voir des étoiles filantes le 22 avril. Étoiles filantes qu'on appelle les Lyrides, elles semblent provenir de la constellation de la Lyre. On parle maintenant de Trappiste 1. Trappiste 1, c'est une toute petite étoile. Elle fait 8% de la taille du Soleil. Elle n'est pas loin, 39 années-lumière, c'est quasiment une voisine. C'est ce qu'on appelle une naine ultra-froide. Non pas qui gèle en surface, température de surface 2200 degrés. Température de surface du Soleil, c'est 5500. Non mais pourquoi on s'intéresse à Trappiste? On sait depuis 2016 qu'il y a trois planètes autour de cette étoile. Mais l'analyse des données intrigue un peu les chercheurs, c'est pas vraiment clair. Donc ils ont mis en place une séquence d'observation qui implique pas mal d'observatoires terrestres, notamment un qui est situé à La Silla, au Chili, puis un autre au Maroc. Et puis, ils ont aussi réussi à obtenir du temps d'observation dans un satellite qui s'appelle Spitzer et qui va observer l'étoile en continu pendant 20 jours. Et on s'aperçoit, en analysant les nouvelles données, qu'il y a 4 autres planètes qui orbitent autour de Trappiste 1. Ça fait 7 planètes autour de Trappiste 1. Qui sont toutes à peu près de la taille de la Terre. C'est même pas sûr qu'il n'y ait pas d'autres planètes qu'on n'a pas encore découvertes. Et puis, il se trouve que dans ces 7 planètes, il y en a 3 qui pourraient peut-être avoir de l'eau en surface, de l'eau liquide. Et qui dit eau liquide, dit possibilité d'abriter de la vie. Oui, oui. Affaire à suivre. Maintenant, des nouvelles de la NASA. Vous savez que la NASA avait dans ses cartons un projet pour les années 2030, un projet d'envoyer un robot attraper, capturer un petit astéroïde avec une espèce de grand filet ou de lasso et de le remorquer en orbite autour de la Lune. Et puis là, les astronautes auraient pu aller l'observer de plus près. Bon, il se trouve que pour des raisons budgétaires, ce projet a été repoussé, je dirais, calendrier grec. Tiens, tant qu'on parle de la NASA... Autre nouvelle, décès de John Glenn. John Glenn avait été, en 1962, le premier astronaute américain à avoir été mis en orbite autour de la Terre. C'est ce qu'on appelait à l'époque le programme Mercury. Il a fait 3 orbites en 4h55 minutes. Ensuite, il s'est reconverti dans la politique. John Glenn avait été sénateur de l'Ohio. Et il était retourné dans l'espace en 1998 avec la navette Discovery. Il avait alors 77 ans. Il détient le record du plus vieil astronaute ayant volé. Il s'est éteint à l'âge de 95 ans. C'est tout. C'est tout pour l'actualité aujourd'hui, les amis. Et maintenant, place aux constellations. Les constellations, émission 2. Dans l'émission précédente, nous avions vu un point important. Qu'est-ce qui relie physiquement les étoiles qui constituent les constellations comme la Grande Ourse, Cassiopée, Orion? Réponse. Rien, absolument rien, aucun lien entre les étoiles d'une constellation. Leur seul point commun, c'est leur éclat apparent. En effet, une constellation, c'est en fait un mélange d'étoiles qui sont très brillantes, parfois des centaines de fois plus brillantes que le Soleil, mais qui sont très très loin. Et puis, d'autres étoiles qui sont beaucoup moins brillantes, mais qui sont beaucoup plus proches. Ben, résultat, elles ont le même éclat apparent, d'où la tentation, d'où l'idée de les associer. Ça date de la nuit des temps. Dans l'Antiquité, on pensait que toutes les étoiles étaient à la même distance de la Terre, elles étaient comme épinglées à ce qu'on appelait la sphère des fixes, qui entourait la Terre qui était considérée comme le centre de l'univers. Dans la première émission, on avait commencé par examiner les constellations du zodiaque, vous savez, celles que vous connaissez bien, puisque c'est celles qu'on trouve dans les horoscopes. On avait vu, tant sur le plan légendaire et mythologique, que sur le plan scientifique et astronomique, l'histoire de ces constellations. On avait vu le Capricorne, le Verseau, le Poisson, le Bélier, le Taureau. Après le Taureau, c'est la constellation des Gémeaux qui vient logiquement. Les Gémeaux, c'est Castor et Pollux, chez les Grecs. Les Romains y voyaient, eux, parfois, Rémus et Romulus. Vous savez, les fondateurs de Rome, les deux jumeaux qui avaient été élevés par une louve. Les Gémeaux, c'est une constellation qu'on voit l'hiver, surtout en janvier-février. Elle est un peu à gauche d'Orion. Dans les gravures antiques, on représente les Gémeaux comme deux frères qui se tiennent par la main. Leurs têtes, ce sont deux étoiles, Castor à droite et Pollux à gauche. Castor, c'est une étoile qui apparaît comme une géante blanche. Mais en fait, c'est un système multiple. C'est une étoile double, dont chaque composante est elle-même constituée de deux étoiles. Et puis il y a une troisième étoile qui est aussi une étoile double. Donc on a finalement un système à six étoiles qui est à 50 années-lumière de nous. Pollux, qui est à gauche, c'est la plus brillante des deux. Elle est à 34 années-lumière de nous. Elle est 10 fois plus grosse que le Soleil. Et surtout, elle a une exoplanète qui fait à peu près 2,5 fois la taille de Jupiter. Avec des télescopes, on peut voir aussi un amas M35 dans la classification de Messier, qui est à côté du pied gauche de Castor. Et surtout, au niveau du ventre de Pollux, se trouve la nébuleuse du Clown, qu'on appelle aussi parfois la nébuleuse de l'Esquimau. Ce sont les couches externes d'une étoile qui a explosé il y a très 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 longtemps. Ça ressemble vaguement quand même à un visage humain. Les légendes grecques qui sont associées aux Gémeaux, eh bien, Zeus aurait placé Castor et Pollux dans le ciel en raison de leur amour fraternel et indéfectible. C'est une légende qui est un peu gentillette. Si on creuse un peu quand même, on s'aperçoit que Castor et Pollux n'étaient pas des vrais jumeaux. Eh oui. Leur mère, Léda, s'était unie la même nuit à son mari, Tyndaré, qui est devenu le père de Castor, mais aussi à Zeus, qui était pour l'occasion déguisé en cygne. C'est comme ça que Zeus est devenu le père de Pollux. Quoi qu'il en soit, les deux frères étaient très liés. Ils faisaient tout ensemble, inséparables. Ils ont participé ensemble à pas mal de batailles. En particulier, ils ont aidé Jason à conquérir la toison d'or du bélier. Il y a aussi une autre légende au sujet de Castor et Pollux. Elle est plus sanglante, un peu plus tragique. Les deux frères étaient tombés amoureux de deux prêtresses très belles. Le hic, c'est que ces prêtresses étaient fiancées. Alors leurs prétendants vont venir demander des comptes à Castor et Pollux. Il s'ensuit une bataille. Castor tue le premier. Le second essaye de s'occuper du premier. Castor veut l'en empêcher. Rebataille. Le second prend son épée et tue Castor. Aïe, aïe, aïe. Sur ce, voilà que Pollux arrive. Il venge son frère en tuant son meurtrier. Trois morts. Mais Pollux, qui se retrouve tout seul, il est bouleversé. Il demande alors à son père Zeus de ne jamais le séparer de Castor. Et c'est pour ça que Zeus va les mettre tous les deux dans le ciel et pour l'éternité. Voilà pour la constellation des Gémeaux. Après les Gémeaux, la suite dans le zodiaque, c'est le Cancer. Cancer, en latin, ça veut dire crabe. C'est une constellation qui est située entre les Gémeaux et le Lion. Elle est visible en Mars. Enfin, quand je dis elle est visible, elle n'est pas très visible, en fait, parce que c'est la moins visible de toutes les constellations du zodiaque. Il n'y a pas d'alignement spectaculaire, il n'y a pas d'étoile très brillante qui faciliterait le repérage dans le ciel. La constellation du Cancer a la forme d'un Y renversé. Les Égyptiens y voyaient un scarabée, les Babyloniens une tortue, et bien les Grecs y voient un crabe. L'histoire de ce crabe, c'est Héra. Héra, c'est l'épouse de Zeus. Héra ne supportait pas Hercule. Pourquoi ? Ben tout simplement parce qu'Hercule était le fils adultérin de son mari Zeus. Alors évidemment, Héra va essayer, une fois de plus, de tuer Hercule. Et pour ça, elle envoie un crabe géant. Un crabe géant qui attaque Hercule. Hercule, en ce moment, il est très occupé. Il est dans les marais de Lerne. Il est occupé à combattre un charmant dragon dont les multiples têtes repoussent au fur et à mesure qu'Hercule les sectionne. C'est l'hydre de Lerne. C'est le deuxième travail d'Hercule. Le crabe pique Hercule au talon. Ça énerve un peu Hercule, qui d'un coup de massue va fracasser le crabe. Bon, l'histoire se termine aussi assez mal pour l'hydre, qui va finalement être vaincu par Hercule. Pour récompenser le crabe de son courage et de son obéissance, Héra va le placer au ciel. Mais comme il a quand même un peu échoué dans sa mission, elle le place dans un endroit où il n'y a aucune étoile très brillante. L'étoile la plus brillante, c'est Altarf. C'est une géante orange qui est située dans l'une des pinces du crabe. Elle est 50 fois plus grosse que le Soleil. Elle est 600 fois plus brillante. Elle est à 300 années-lumière. Elle a une particularité, cette étoile, elle fait un tour sur elle-même en 2 ans. Le Soleil, lui, fait un tour sur lui-même en 29 jours. Bon, il n'y a pas d'étoile vraiment intéressante dans la constellation du Cancer, mais il y a quand même un petit bijou. C'est M44 d'après la classification de Messier. C'est ce qu'on appelle l'amas de la crèche, ou parfois aussi l'amas de la ruche, il y a 2 noms. Avec de bonnes jumelles, on peut voir dans cet amas des dizaines d'étoiles. Voilà pour la constellation du Cancer. Après le Cancer, le Lion. En astrologie, cela concerne les natifs du 23 juillet au 22 août. En astronomie, cette constellation se situe entre celle du Cancer et celle de la Vierge. Elle est visible en mars-avril, en regardant un peu en dessous de la Grande Ourse. Une légende se réfère au Lion de Némée. Ce lion vivait dans la lune et il a été envoyé sur terre par Héra pour régler son compte à Hercule. Il est arrivé en chevauchant une comète ou une étoile filante. Là, les témoignages ne sont pas très précis. Toujours est-il que ce lion terrorisait les habitants de la ville de Némée et Hercule est envoyé pour les en débarrasser. Le problème, c'est que ce lion a une peau tellement dure, tellement épaisse, que les flèches ou les épées ne peuvent pas la transpercer. C'est un peu comme une sorte de cuirasse. Alors Hercule va l'attraper à main nue, va l'étouffer en lui serrant le kiki. Hercule, c'est pas bête, il récupère la peau du lion pour s'en faire un vêtement, pour se protéger pour les 11 travaux qui vont suivre. Il y a une autre légende qui est racontée par le poète grec Ovide. Elle fait état d'un triste et d'un funeste malentendu. C'était à l'époque où les mûriers étaient blancs. 2 amoureux, Kiram et Thisbé, se donnent rendez-vous sous un mûrier. Thisbé est la fille, elle arrive la première et elle attend. Voilà qu'un lion arrive. Ce lion est couvert de sang, il a dû se bagarrer. Thisbé prend peur, elle s'enfuit et dans la précipitation, elle perd son châle. Le lion attrape le châle, joue un moment avec, le salit bien sûr, plein de sang le châle, et il s'endort. Voilà Kiram qui arrive. Il reconnaît tout de suite le châle de Thisbé, qui est plein de sang, et il en déduit que le lion a dévoré Thisbé. Il est fou de douleur, il prend son glaive, il se transperce. Thisbé revient. Elle voit le corps de son amant. Ni une ni deux, elle prend le glaive et elle se suicide aussi. Triste histoire. C'est depuis ce temps-là qu'il paraît que les mûriers sont pourpres. Dans le ciel, la constellation du Lion ressemble plus ou moins à un animal. Pour une fois, des étoiles sont disposées de telle façon qu'avec, on peut imaginer un corps d'un animal avec la tête qui regarde vers l'ouest. La tête est en forme de faucille ou de point d'interrogation retourné. Les étoiles remarquables, la plus brillante, c'est Régulus. C'est la plus facile à repérer. C'est la poitrine du Lion. Elle est 4 fois plus grosse que le Soleil et 130 fois plus brillante. Mais surtout, elle tourne très vite sur elle-même. Elle fait un tour en 16 heures. Et comme elle tourne très vite, elle a une forme aplatie, un peu comme une mandarine. Elle a un compagnon qui est une étoile binaire. Donc c'est en fait un système triple, Régulus. On peut aussi repérer Denebola, c'est à l'autre extrémité du Lion, c'est la queue du Lion. Denebola est 2 fois plus grosse que le Soleil et 120 fois plus lumineuse. Elle tourne aussi très vite sur elle-même. Il y a aussi, dans la constellation du Lion, beaucoup d'objets du catalogue que Charles Messier avait fait à l'époque de la Révolution. Des galaxies spirales, M65, M66, M95, M96, des galaxies qui sont situées à 30 millions d'années-lumière de nous. Il y a aussi M105, une grosse galaxie elliptique. Pour les voir, il faut un télescope. Après la constellation du Lion, c'est le tour de celle de la Vierge, Virgo en latin. En termes d'étendue, cette constellation est dans le ciel la plus importante après celle de l'Hydre. Elle est visible au printemps. Pas très facile à visualiser d'ailleurs. C'est la seule constellation du zodiaque qui évoque une créature féminine. On la représente sur les dessins par une jeune femme, une jeune fille, qui est couchée sur le dos avec de grandes ailes, un peu comme un ange, et elle tient dans sa main gauche un épi de blé. L'étoile majeure de cette constellation, c'est Spica, c'est une géante bleue. C'est une étoile qui brille 2000 fois plus que le Soleil. Elle permet de repérer la main de la Vierge, celle qui tient l'épi. Mais il y a aussi dans cette zone énormément de galaxies, plus de 3000, parmi lesquelles on peut citer M61, une belle spirale barrée qui est vue de face, il y a aussi M104, la galaxie du sombrero qui est vue par la tranche. Certaines de ces galaxies sont regroupées dans ce qu'on appelle l'amas de la Vierge. Il y a plus de 1000 galaxies qui sont concentrées dans un petit espace qui est situé à plus de 50 millions d'années-lumière de nous. Juste M87, M86, M49... Toutes ces galaxies sont visibles avec un petit télescope. Cette Vierge, on l'appelait Isis en Égypte, Cérès chez les Romains, Déméter, Athéna aussi, et même Astrée. Alors, c'est un peu difficile de s'y retrouver avec tous ces noms. Il y a comme un problème d'identité, là. C'est la déesse des moissons, d'où l'épi de blé, ou celle de la justice. Et pour ça, c'était il y a très très longtemps. Les premiers hommes créés sur Terre étaient heureux, vivaient paisibles, la Terre était féconde et elle leur apportait tout ce qu'ils avaient besoin pour vivre et même pour bien vivre. Pas de disputes, pas de jalousie, pas de querelles entre eux. Comment c'était possible? Eh bien parce qu'ils vénéraient tous leur reine, la Vierge Dike, qui vivait parmi eux et leur enseignait la justice. C'était un peu l'âge d'or. Ces hommes vont disparaître et leurs descendants se contentent plus de ce qu'ils avaient. Ils veulent autre chose. Et vient le temps des jalousies, des querelles. La Vierge Justice se réfugie dans les montagnes en les mettant en garde et elle le prédit que s'il continue comme ça, ça va mal se passer. Il va y avoir des meurtres, il va y avoir des guerres, etc. Ce qui ne manque pas d'arriver. Les hommes se mettent à fabriquer des couteaux, des épées, des armes pour se battre, pour se tuer et pour imposer leur loi à l'autre. Horrifiée, la Vierge Justice s'envole dans le ciel et elle refuse de revenir sur Terre tant que l'injustice va exister. Elle est toujours là-haut. Est-ce que ça veut dire que la justice n'existe pas sur Terre? En tout cas, c'est une vision pessimiste de la nature humaine. Heureusement, il y a des muses qui se souviennent de ces temps anciens et qui vont inspirer des âmes nobles qui chercheront à rétablir des lois justes pour tous. Et peut-être qu'après beaucoup d'efforts, ils vont finir par y arriver. Ils vont finir par arriver à nous rapprocher de la Vierge Justice qui attend là-haut, en tenant dans sa main cette étoile brillante, comme la flamme d'un espoir qui ne s'éteindra jamais. C'était la séquence émotion, la séquence philosophe de l'émission d'aujourd'hui. Allez, on voit la suite dans un instant. Rejoignez sur 95.10, les amis, bienvenue. Aujourd'hui, notre émission d'astronomie est consacrée aux constellations du zodiaque, vous savez, celles qui servent à faire des horoscopes. Dans la première partie de l'émission, on avait terminé à la Vierge. Alors la constellation suivante, c'est la Balance. Balance, Libra en latin. Une constellation qui est visible au printemps, début de l'été. Elle est entre la Vierge et le Scorpion. C'est une constellation qui est modeste, il n'y a pas d'étoiles vraiment remarquables, il y a assez peu d'intérêt, et en plus, elle est difficile à trouver. Il y a quand même une étoile intéressante dans cette constellation, elle s'appelle Gliese 581, Elle est intéressante parce qu'on a découvert qu'elle avait trois planètes, trois exoplanètes, dont deux sont un peu plus grosses que la Terre. L'étoile la plus brillante de la Balance, c'est Alpha Libra, une étoile double à 80 années-lumière de nous. La seconde, c'est Beta Libra. Alors celle-là, elle a une particularité, elle tourne sur elle-même en 8 heures. C'est-à-dire qu'elle tourne sur elle-même 100 fois plus vite que le Soleil ne tourne sur lui-même. Ces deux étoiles forment les deux plateaux de la Balance, la Balance de la Vierge, la Vierge, la déesse de la justice, la Balance de la justice, qui est juste à côté dans le ciel. Question légende. Alors là, je suis désolé. Là, j'ai pas d'histoire abominable ou sanglante, ou les deux à la fois, j'ai pas d'histoire comme ça à vous raconter. Oui, parce que c'est une constellation qui n'existait pas. Mais les astrologues égyptiens, qui avaient 11 constellations à la disposition, s'étaient aperçus qu'il en manquait une. Oui, parce qu'il y a 12 mois dans l'année. Alors, sans état d'âme, ils ont coupé le bout des pattes du scorpion qui était juste à côté pour en faire la constellation de la Balance. Voilà l'histoire, elle est toute simple. À côté de la Balance, c'est le scorpion. Alors là, on a une très belle constellation qui est visible l'été. Une constellation facile à repérer parce qu'il y a une douzaine d'étoiles très brillantes qui sont disposées de telle façon qu'on peut, pour une fois, imaginer effectivement un scorpion dans le ciel avec la queue qui est retournée comme un crochet, les étoiles qui forment le corps, et puis les pattes avant, les pinces, c'est une espèce d'éventail. Par contre, c'est une constellation qui est toujours très bas sur l'horizon. Au nord de Bordeaux, il est même impossible de voir la queue du scorpion qui reste toujours sous l'horizon. Puis ensuite, comme elle est basse sur l'horizon, il peut y avoir aussi des problèmes de pollution lumineuse qui empêchent de bien la voir. L'étoile la plus brillante du scorpion, c'est Antarès. Elle est rougeâtre comme la planète Mars. D'où son nom. Parce que Arès, c'est le dieu de la guerre, c'est Mars aussi. Antarès, c'est anti-Arès. C'est l'opposé de Mars. C'est la rivale de Mars. Antarès, c'est une étoile géante. Elle est 400 fois plus grosse que le Soleil. Si elle était à la place du Soleil, elle engloberait et Mercure, et Vénus, et la Terre, et même Mars. Elle est 10 000 fois plus grande, plus brillante que le Soleil. Antarès est à peu près au milieu de la carapace du scorpion. Oh, il y a aussi des amas d'étoiles, M6, M7, M80. Il y a aussi M4, qui est l'amas d'étoiles le plus proche de nous. Il est à 7 000 années-lumière. Il est visible à l'œil nu, d'ailleurs, avec un très bon ciel. Le scorpion aurait aussi été le siège d'une supernova. Alors une supernova, c'est une étoile en fin de vie qui explose en émettant des rayonnements X, des rayonnements ultraviolets très dangereux. Et cette explosion, cette supernova, aurait conduit, il y a 2 millions d'années, à ce qu'on appelle, ce que les géologues plutôt, appellent l'extinction pléistocène, qui est responsable de la disparition de nombreuses espèces, en particulier dans les océans. Des légendes associées au scorpion, il y en a au moins deux, avec différentes variantes. La première, elle fait intervenir Phaéton. Phaéton, c'est le cocher qui pilote un char et qui rencontre ce monstre, ce scorpion. Alors les chevaux qui sont complètement affolés, Phaéton essaye de les calmer mais n'y arrive pas, il perd le contrôle de son véhicule qui se renverse. Mais dans le char, qui est-ce qu'il y avait ? Le problème, c'est qu'il y avait le soleil. Et ça met le feu à la Terre entière. C'est la cata. La seconde légende met en scène Orion. Orion, le chasseur qui se vantait d'être un chasseur extraordinaire qui pouvait tuer tous les animaux de la Terre. Orion vient empiéter sur les territoires de chasse d'Artémis. Artémis, c'est Diane, c'est la déesse de la chasse. Alors évidemment, Artémis, elle voit ça d'un très mauvais œil. D'où altercation, le ton monte de plus en plus, ils en viennent aux mains, Orion se jette sur Artémis pour la violer. Artémis appelle son frère à la rescousse, son frère c'est Apollon, Apollon fait surgir de la terre un scorpion géant pour combattre Orion. Le scorpion commence d'abord par tuer les deux chiens d'Orion, qui s'appellent Sirius et Procyon. Et la lutte continue un moment. Et la lutte continue jusqu'au moment où le scorpion finit par piquer Orion au même moment qu'Orion transperce la carapace du scorpion. Les deux trépassent en même temps. Le père d'Orion, c'était Poséidon, Neptune, le dieu de la mer, et bien il va placer son fils dans le ciel. Alors Artémis devient folle de rage. Illico, elle décide aussi d'y placer le scorpion pour que le combat puisse continuer là-haut. Mais il y a Zeus qui observe tout ça. Zeus, il trouve que cette histoire commence à prendre une drôle de tournure. Et finalement, il décide de placer Orion et le scorpion de telle façon qu'ils puissent plus jamais se rencontrer. Et c'est pour ça que Orion se lève à l'est quand le scorpion se couche à l'ouest, et réciproquement. Bon, avec la constellation du scorpion, on a un peu débordé sur celle d'Orion. Orion, la vedette des nuits d'hiver, avec ses trois étoiles très brillantes, parfaitement alignées. Et puis on a aussi parlé de la constellation du cocher, Phaéton, qui est juste au-dessus d'Orion dans le ciel. Voilà. Allez, la dernière. La dernière constellation du zodiaque qui nous reste à voir, c'est la cafetière. Pardon, la théière. Oui, parce que les étoiles qui la constituent, cette constellation, eh bien, elles dessinent dans le ciel, et c'est d'ailleurs assez étonnant, l'image d'une théière avec le ventre, le couvercle, l'anse sur la gauche et le bec verseur sur la droite. Les Anglais l'appellent le teapot théière. Nous, on l'appelle le sagittaire. Et c'est vrai que ça ressemble beaucoup à une théière, un peu comme la grande ours ressemble à une casserole, hein, plus qu'à une ours. Hein. Cette constellation est visible l'été. C'est certainement la plus spectaculaire des 88 constellations. Mais comme le scorpion, c'est une constellation qui est basse sur l'horizon. Et l'idéal pour la voir, c'est d'aller dans des pays qui sont situés entre le tropique du cancer et celui du capricorne. C'est au niveau du sagittaire que se situe le centre de la Voie lactée. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a des amas, il y a des nébuleuses, M8, la nébuleuse du Lagon, M20, la nébuleuse Trifide. Alors ça, c'est un amas d'étoiles qui est parcouru par des zones un peu noires qui semblent le partager. Ces zones noires, ce sont des zones de poussière qui masquent les étoiles qui sont derrière. Mais dans un petit télescope, quand on regarde, on a l'impression de voir quelque chose qui ressemble à un trèfle, d'où son nom, nébuleuse Trifide, M20. L'étoile la plus brillante, c'est le sommet du couvercle de la théière. C'est Cos Australis, qui est 300 fois plus brillante que le Soleil. On peut aussi y repérer des groupes de galaxies. Bon, il y a beaucoup de choses à mettre dans l'oculaire d'un télescope quand on regarde le Sagittaire. Sur les gravures, on représente le Sagittaire comme un être mi-homme, mi-cheval. C'est ce qu'on appelle un centaure. Un buste d'homme, un corps de cheval. On voit le Sagittaire. Sagittaire, ça veut dire archer. On voit souvent le Sagittaire qui tient un arc et qui vise Antarès, le cœur du scorpion. Ben, c'est histoire de venger Orion, le scorpion qui est juste à côté du Sagittaire. Dans certaines légendes, le Sagittaire est présenté comme l'inventeur du tir à l'arc. Dans d'autres légendes, le Sagittaire, c'est Chiron. Alors, un centaure, d'habitude, ce sont des êtres qui sont assez frustes et plutôt méchants, plutôt brutaux. Et bien, ce Chiron, c'est un centaure qui est très fin, très cultivé, qui vit au milieu des muses. C'est un très bon chasseur, un très bon navigateur. Bref, il a toutes les qualités. Et Zeus admire ce centaure, c'est un fan, et du coup, et ben, pour le récompenser de toutes ses qualités, il l'a placé dans le ciel. Voilà. Bien, on a terminé notre promenade dans le ciel parmi toutes ces constellations du zodiaque qui se situent sur l'écliptique. Vous savez, l'écliptique, c'est la zone qui est parcourue par le soleil durant la journée et c'est là où aussi on trouve les planètes durant la nuit. Oui, parce que la constellation suivante, c'est ce qu'on appelle le Serpentaire et c'est par elle qu'on avait commencé notre émission précédente. Le Serpentaire, c'est la seule constellation qui n'est pas dans les horoscopes. C'est dommage. Les astrologues grecs auraient pu utiliser ce Serpentaire plutôt que de couper le bout des pinces du scorpion pour en faire la constellation de la balance. Mais bon. Bon, il y a aussi encore bien d'autres constellations dont je vous parlerai, Cassiopée, la Grande Ourse, mais ça sera dans une autre émission, les amis. Allez, merci de votre fidélité. À bientôt.
À la découverte du ciel, une émission proposée et présentée par Alain sur la Voix du Béarn 95.10.
Radio pour mon territoire, en Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, ce sont nos 83 radios associatives, une pour chaque territoire et toutes pour la grande région.
Ma radio locale, je lui dois beaucoup. Elle m'a ouvert ses portes et m'a appris ce qu'est un média associatif. Son ouverture, sa pratique et sa liberté. Aujourd'hui, pouvoir s'exprimer librement et proposer de la diversité sur nos ondes, nous le devons à ce média. Une vraie richesse de notre pays et un contrepoids efficace à la culture de masse qui ne m'aurait jamais donné cette opportunité.
Les 83 radios associatives d'Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, c'est la proximité au quotidien pour tous. Soutenez votre radio pour votre territoire.